Bonjour et bienvenue dans les aventuriers du Pixel perdu.
We're about to complete a great quest, the Holy Grail, Dr. Jones. Oh, rats.
Pour notre première aventure de l'année 2018, nous nous sommes dit que notre monde était désespérément surfait, que l'Amazonie et le Kilimandjaro c'était du déjà vu et que les pyramides étaient décidément un peu trop pyramidales. Fille de l'or des nazis, des artefacts antiques, des arches d'alliance et même du Saint Graal, la Terre et ses 5 continents étaient à nos yeux désenchantés, bref, nous étions blasés. Mais qu'à cela ne tienne, Thomas et moi, sautant à pieds joints dans un trou de verre, brisant la trame fragile de la réalité, nous avons fait un pas sur le côté, filant à toute vitesse vers la dimension qui abrite, dans un repli du multivers, Mystara et Morrowind, Azeroth et Bord de Ciel, la Terre du Milieu et Oblivion. Au cours de nos pérégrinations, nous nous sommes aperçus que ces lointaines contrées n'avaient pas été foulées que par les joueurs de roleplay games, mais que, de l'archipel de l'automne au Havre Gris, persistait une rumeur. Cette rumeur faisait état du passage d'anciens voyageurs venus des années 80 et qui continuaient à arpenter les royaumes oubliés et les landes hostiles si l'on en croyait certains rôdeurs solitaires qui avaient aperçu quelques lueurs de feux de camp briller au sommet des collines ou au bord de cours d'eau maudits. D'autres prétendaient avoir entendu les échos de dés lancés en passant devant l'entrée béante de grottes désertes et en longeant des vallées perdues. Ces mystérieux voyageurs, dit-on, sont bien plus lents et bien plus discrets que les joueurs de RPG, reconnaissables à l'allure flamboyante que leur confère leur carte graphique Nvidia GeForce et aux légers glitches qui parfois révèlent leur nature d'effraction de la réalité. Les joueurs de JDR papier, puisque c'est ainsi qu'il faut les appeler, semblent être les spectres émanant d'un passé se tenant au bord du gouffre de l'oubli, mais qui ne semblent pas pour autant être totalement étrangers aux rutilants joueurs contemporains. Un lien de parenté semble les unir, et les mânes des ancêtres qui continuent de hanter les mondes imaginaires désormais numérisés semblent parcourir les forêts et les mines, les fleuves et les montagnes, pour rappeler ce que le pixel doit au crayon.
Oui, et sur notre route, nous avons donc rencontré un PNJ fort sympathique, Antoine ici présent, alias Darkantou.
Bonjour.
Bonjour Darkantou. Et à présent, nous vous proposons une petite mise en contexte.
J'ai vu le jour il y a 87 ans. 65 années durant, j'ai été empereur de Tamriel. Mais pendant tout ce temps, jamais je n'ai pu gouverner mes rêves. J'ai vu les portes d'Oblivion, au-delà desquelles nul ne peut voir en dehors du sommeil. Voyez, au cœur des ténèbres, un grand fléau s'abat sur le monde. Nous sommes le 27 Vif Azur de la 433e année d'Akatosh. L'air troisième vit ses derniers jours et mon existence ses dernières heures.
nous entendions juste avant l'empereur Uriel Septime VII, en introduction du jeu Oblivion, quatrième opus de la saga The Elder Scrolls. Et ce qui est tout de suite frappant quand on écoute l'empereur, c'est qu'il joue le rôle en fait d'un maître du jeu, c'est-à-dire que il introduit la situation comme le faisait un maître du jeu autour d'une table de jeu de rôle papier, et qu'il y a vraiment un lien entre ces deux figures-là de l'empereur qui va jouer le rôle du seuil entre le joueur qui s'immerge dans le jeu et qui va commencer l'aventure d'Oblivion et cette crise d'Oblivion évoquée par l'empereur.
Oui, parce qu'on voit qu'il y a vraiment une idée selon laquelle, qui est assez communément répandue, que le JDR papier, même le JDR plateau, serait une espèce de grand-père du roleplay game sur ordinateur. D'ailleurs, cette idée est assez présente dans la série Stranger Things, puisque au tout début de la première saison, on a le groupe des amis, des petits garçons, donc, qui jouent à Donjons et Dragons sur plateau, avant que Will ne disparaisse et que soit l'élément déclencheur de la série. Et au début de la deuxième saison, on les retrouve dans un jeu d'arcade, tous agglutinés autour d'une borne d'arcade où ils jouent à Dragon Slayer. Et c'est ce qui lance à nouveau le drame, puisque Will va sortir du bâtiment et à nouveau être confronté au démon Gorgon qui revient le hanter depuis le monde à l'envers.
Une ombre grandit sur le mur derrière toi. Elle t'avale dans le noir. Cette chose est toute proche.
Qu'est-ce que c'est?
Tu imagines si c'est le démon Gorgon?
Oh non, pitié, pas ça, on est foutus si
c'est
lui.
C'est pas le démon Gorgon. Et là, une armée de troglodytes fonce dans la chambre.
Les troglodytes, je te l'avais dit.
Qu'est-ce qui se passe? Vous entendez? Il y a un bruit. Boum. Boum.
Boum!
C'est clair que c'est pas les troglodytes. Le bruit vient d'ailleurs.
C'est le démon Gorgon!
On est trop dans la merde!
J'ai un sort, Will!
Je sais pas quoi faire!
Balance-lui une boule de
Il
feu!
Il faut que je fasse au minimum 13!
Non,
c'est trop risqué! J'ai plutôt un sort de protection!
C'est pas d'un mauviette, balance-lui une boule de feu!
J'ai un sort de protection!
Le démon Gorgon commence à en avoir assez de vos disputes d'humains! Il marche droit sur vous! Boum!
Envoie une boule de
Il
feu!
Il approche! Boum!
J'ai un sort de protection!
Il est grand de colère!
Oh, j'y crois pas, j'arrive en territoire inconnu, les gars.
Assez agile. Enfin, tu y arriveras un jour, mais en attendant, la princesse Daphné m'appartient toujours.
Oui, ce qu'on voit à travers la série Stranger Things, c'est que le jeu de rôle papier, puis le RPG ensuite, sont devenus des éléments vraiment constitutifs de toute une culture émergente et parallèle dans les années 70 et 80, et qui a connu un essor à cette époque-là et qui a perduré jusqu'à nos jours, pour plusieurs raisons déjà. Ce qui est formidable avec le jeu de rôle papier, c'est qu'on a vraiment l'occasion de rejouer et de s'approprier des univers qui sont chéris par les fans, en fait. Le plus connu, Donjons et Dragons, en fait, qui est sorti en... La première édition est sortie en 1974. À la base, son créateur avait pris l'univers de Tolkien et l'avait apposé sur un jeu de guerre préexistant avec un jeu de guerre stratégique, avec d'autres règles, et avait mis cet univers-là pour pouvoir jouer dans cet univers. Donc on voit bien que c'est une réappropriation de ces univers fantastiques. Et après, on a d'autres exemples. On va avoir des jeux de rôle Star Wars, on va avoir des jeux de rôle basés sur tout l'univers de Lovecraft, qui va participer énormément en France à faire connaître l'univers de Lovecraft dans les années 80 et 90. Et du coup, oui, le jeu de rôle papier a cette fonction de réappropriation ludique des univers fictionnels, en fait, de vraiment se réapproprier tout ce qu'on a vu sur grand écran, tout ce qu'on a lu jusqu'à présent, en fait.
Oui, et puis par ailleurs, c'est vrai qu'on peut dire, on peut remarquer également que les JDR papier permettent une certaine forme de retour à une curiosité infantile, à quelque chose de très innocent, à une attitude très innocente par rapport au jeu. C'est vrai que moi, ça me fait beaucoup penser à la figure selon Nietzsche de la capacité d'étonnement par rapport au réel. C'est vraiment l'exemple le plus typique de cette capacité à la fois d'étonnement et de créativité par rapport au réel. Et j'ai l'impression que les RPG papier permettent de manière assez paradigmatique cet étonnement et cette puissance de création, puisqu'il y a vraiment une très forte liberté laissée aux joueurs qui se retrouvent dans un étonnement et dans une espèce de stimulation intellectuelle très puissante par rapport aux différentes possibilités de jeu qu'il a en face de lui. Et il se trouve donc que moi je vois vraiment quelque chose de très enfantin, dans le sens finalement que Nietzsche donne à ce concept. Et c'est vrai qu'on peut se demander si par ailleurs cette fonction créatrice, cette stimulation intellectuelle, cette capacité de jeu éveillée par le JDR papier n'a pas été d'une certaine manière perdue ou affaiblie ou atténuée ou modifiée tout simplement, ou a simplement évolué lorsqu'elle a été transférée ou lorsqu'elle a muté sous une forme de JDR sur ordinateur.
Oui, tout à fait, puisque on le voit dans la mise en scène, ne serait-ce que dans la mise en scène de Stranger Things, au début, dans la première saison, on les voit tous autour de cette table, et il y a ce moment, ce fameux moment où d'un coup, le maître du jeu pose la petite figurine du Démogorgon sur la table, où d'un coup, ils vont se mettre à crier tous ensemble, alors que lorsqu'ils sont autour de la borne d'arcade, ça va être un petit peu à celui qui va le plus vite défaire l'ennemi, etc. Ils vont tous être déçus par le fait d'avoir été vaincus par leurs ennemis, mais ce n'est pas tout à fait la même ambiance qu'on retrouve, même si ça reste une ambiance de jeu, d'étonnement, mais peut-être qu'il sera un peu moindre que cette espèce d'ambiance qu'on retrouve dans la cave du maître du jeu, où ils sont là, dans cette espèce d'amas de coussins et de figurines qui leur permet d'aller vers cet étonnement.
Ouais, c'est vrai, en l'occurrence je pense vraiment pas que ce soit un hasard s'il se trouve que ce sont des enfants qui sont pris dans Stranger Things, qui représentent un peu justement cette figure de l'étonnement et cette espèce d'innocence par rapport au jeu finalement, puisque on peut penser cette série comme un gigantesque jeu dans une dimension parallèle, donc ça, en ce sens là il y a vraiment une dimension nietzschéenne très forte.
Qui fait aussi que le jeu de rôle papier a une spécificité que on peut discuter par rapport au RPG sur ordinateur, où aujourd'hui on en a beaucoup sur console. Plusieurs choses en fait qui font que finalement la parenté entre jeu de rôle papier et RPG sur machine informatique n'est pas aussi simple que ça.
On pourrait imaginer qu'il y aurait une espèce d'arbre phylogénétique un peu, si on pouvait prendre cette évolution dans une perspective un peu darwinienne, c'est-à-dire qu'il y aurait une branche du jeu de rôle qui serait détaché de la branche principale qui serait le JDR papier, mais cette branche ce serait le RPG. Il faudrait voir en quoi celle-ci, qu'est-ce qu'elle garde de cette idée originelle de la paire de dés et de la fiche avec un crayon.
Et vous entendez ? Et il continue comme ça. Et vous avez cette impression que tout autour de vous, la lumière s'est effacée. On a l'impression, enfin, que c'est la pleine nuit. Mais quand vous relevez votre tête, vous apercevez étoiles et lune, mais qui ne font aucune lumière. Il n'y a aucune ombre. La seule lumière, c'est la magie, ici, multicolore, affreusement acide, avec des jaunes vifs, abominable, avec des oranges qui frappent les yeux, avec du vert à vomir de tous ces corps et de ces cadavres et de la couleur de cette chair qui pourrit depuis semaines, mois, qui vole et qui forme une espèce de pilier d'horreur et de sang. La seule lumière que vous avez autour de vous, c'est cette lumière grise de ton orbe, Phénix. Que faites-vous ?
Bref, ce qu'il faut bien reconnaître, c'est que le RPG a eu ce mérite-là, en étant une simulation informatique, d'alléger tout le poids du JDR papier. Parce que le JDR papier, dans sa complétude, et c'est aussi une de ses qualités, mais un de ses défauts, c'est que, étant donné qu'il va représenter un monde tout entier, et qu'il va représenter les potentielles activités dans ce monde-là, il va être obligé de créer tout un système de règles pour pouvoir faire un monde cohérent. C'est-à-dire qu'on va devoir avoir des règles pour des choses parfois aberrantes, mais qui sont en fait nécessaires pour que la simulation tienne. Je pense par exemple aux règles de surcharge qu'on peut avoir dans certains JDR papier, qui sont des règles qu'on perd en vitesse proportionnellement au poids qu'on porte. Et du coup, par moments, ça peut être très handicapant pour un joueur, et parfois ça peut être un peu lourd de respecter tout le temps ces règles. Ce qui est bien, ce qui est bien avec le RPG, c'est que en enlevant ce genre de règles un peu lourdes et un peu dures à assimiler,
qui sont nécessaires au plaisir de jeu, hein, mais qui peuvent être un peu lourdes à assimiler et qui du coup rebutent les néophytes et restent finalement pour les passionnés, eh ben, le RPG du coup a proposé une expérience beaucoup plus large et qui a permis d'ouvrir à le jeu de rôle et l'incarnation de rôle à beaucoup plus de gens en fait.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire que l'algorithme, d'une certaine manière, a remplacé tous ces lancers de dés, toutes ces espèces de comptabilités qu'il fallait tenir du jeu et qui, parfois, effectivement, ralentissaient l'action et ralentissaient le développement et le plaisir et même parfois l'imaginaire, j'ai l'impression. Mais ça fait un peu... Enfin, il y a une certaine idée brechtienne, finalement, dans ce que tu dis, c'est-à-dire que Brecht disait qu'il fallait sans cesse élargir le cercle des connaisseurs par rapport au théâtre, et là, c'est un peu ça, c'est-à-dire que ça permet d'élargir à des personnes qui n'auraient pas forcément envie de prendre 3 heures... avant de jouer, et ça permet de délier une certaine forme de poursuite de l'imaginaire qui est un peu entravée, comme tu disais, par le poids des règles, le poids de l'appareil.
Ça libère la... En même temps, ce qui est assez drôle, c'est que tu as raison, ça libère, enfin ça ouvre le cercle des connaisseurs, hein, comme le dit Brecht, mais aussi ça ouvre aussi à une imagination plus individuelle et du coup à une incarnation qui va passer par quelque chose. On sort des cercles de joueurs de renfermés en fait dans une cave et où il y avait une certaine convivialité. Hein. Et bon, une cave c'est un peu caricatural, mais il y avait une certaine convivialité. Et on en vient peut-être à une expérience plus individuelle, mais aussi à une expérience qui est plus intense au niveau de cette individualité-là. Là où les joueurs de JDR papier vont gérer des éléments de discours que vont leur donner les maîtres du jeu et les situations, le RPG va me donner directement des informations visuelles et des situations sensibles, en fait, directement par le joueur. Et c'est ça, en fait, je pense, une des victoires du RPG sur le jeu de rôle papier, c'est de proposer une expérience sensible et, pour le coup, vraiment plus organique que celle du JDR papier.
Et plus multisensorielle, peut-être.
Ah oui, aussi, bien sûr, multisensorielle également, quoi.
C'est vrai que pour poursuivre ce que vous disiez, il se trouve que en l'occurrence dans le RPG, on est beaucoup plus face à un monde dans toute sa complexité, dans toute sa concrétude, et ce qui fait qu'on a réussi finalement à créer un univers, un lieu qui a une certaine autonomie et qui est régi par des lois qui sont complètement différentes des nôtres en fait. Et c'est vrai que ça me fait beaucoup penser au concept finalement d'hétérotopie chez Foucault, parce que j'ai l'impression que le RPG crée un topos, mais pas n'importe quel topos, pas n'importe quel lieu, il crée un hétérotopos, un autre lieu, un lieu différent de ceux auxquels on est accoutumé, que ce soit des lieux domestiques, des lieux de passage. Là pour le coup c'est un lieu dans lequel on incarne une personne qui n'est pas nous, on est confronté à des personnes qu'on ne croiserait pas dans la vraie vie, on interagit avec elles d'une telle manière que ça ne pourrait pas se passer dans la vraie vie. Donc on est vraiment face à, et ça poursuit un peu finalement ce dont je parlais tout à l'heure avec cette puissance créatrice contenue dans le RPG, c'est qu'on est face à un univers dans lequel on est finalement beaucoup plus libre qu'on l'est dans la vraie vie, et donc il y a comme ça un déploiement de la liberté rendu possible seulement, j'ai l'impression, grâce à cette dimension virtuelle du monde, de cette hétérotopie finalement que le RPG élabore sous nos yeux, quoi.
Effectivement, puisque le RPG peut-être numérique va abolir un certain nombre de lois, les lois physiques tout simplement qu'on peut rencontrer, oui, même dans les simulations de jeux de rôle grandeur nature comme il pouvait avoir lieu dans les années 80, les joueurs restaient quand même soumis à des lois, c'est-à-dire le soleil qui finit par se coucher, la fatigue, le besoin de dormir, etc. Alors que peut-être que dans le RPG numérique, ce lieu autre, ça devient une espèce de monde, une fiction d'un monde hors science, comme dirait Meyasu, qui permet aux joueurs de marcher pendant des kilomètres, des nuits entières, des jours entiers, et à adopter un déroulement du temps qui est totalement différent. Et c'est vrai que ça rejoint cette idée d'hétérotopie.
Ouais, en fait, ce qui par rapport au jeu de rôle papier, c'est qu'on n'a plus des règles du jeu qui font exister un monde, on a des règles physiques qui sont totalement changées et qui, du coup, vont proposer... plus qu'une expérience de jeu, ils vont proposer une expérience de vie d'un personnage, et du coup c'est là qu'on retrouve une incarnation de rôle, c'est-à-dire que on va, ce qu'on disait tout à l'heure, que le RPG va plus incarner une aventure, pour le coup on peut retrouver un rôle aussi dans le fait que dans cette hétérotopie-là, nous-mêmes on va se retrouver, quoi.
Et idéalement, pour faire un pas de plus, on pourrait même dire que cette liberté pourrait être couronnée si chaque joueur aurait à tel point une liberté qu'il pourrait carrément créer son propre univers. Ça, ce serait vraiment, je pense, le point final des RPG. Ce serait le moment où chaque joueur serait capable lui-même de créer tout son univers, mais entièrement. C'est-à-dire il crée absolument tout ce qui doit être présent dans cette dimension 3D, quoi. C'est, Il n'y a rien qui puisse lui être imposé d'une quelconque manière. Il crée toutes les lois qui régissent les différents éléments qu'il crée également. Enfin, ça, ce serait selon moi enfin, un peu le paroxysme de cette liberté permise par le RPG.
Bah, on y arrive un petit peu, en fait, avec ce qu'on appelle les modes, qui sont très présents pour les jeux vidéo aujourd'hui. Les modes, c'est des surplus de jeux, en fait. Enfin, des choses à part du jeu.
Ouais, des extensions. Si on devait rapprocher ça du jeu.
Oui, c'est ça, des extensions qui sont créés par les joueurs et qui permettent de rajouter des choses au monde du jeu. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des modes pour à peu près tout, pour ajouter des maisons dans le jeu, des maisons que les joueurs auront eux-mêmes créées, pour ajouter sur les livres pour changer la police d'écriture, enfin des choses comme ça, du petit au très grand, quoi. Et du coup, ouais, il y a vraiment cette liberté-là du joueur qui va pouvoir créer sa propre hétérotopie, quoi.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. La liberté dans les jeux vidéo peut être l'objet d'une prochaine aventure des aventuriers du Pixel Perdu. À bientôt pour de nouveaux voyages vidéoludiques. Et en attendant, jouez bien.